Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans C'est pas du vent. Après avoir été pendant des décennies le premier producteur africain de coton-graines, le Burkina Faso a connu des revers à la fin des années 90 et a pensé s'en sortir en se tournant vers les gènes OGM du géant américain Monsanto, censé être plus résistant. L'expérience tourne au désastre, les semences et les intrants coûtent cher, les cultivateurs s'endettent, les engrais chimiques polluent les sols, les bêtes tombent malades, le coton burkinabé perd son label de qualité. En 2016, nouveau virage pour relancer un secteur en difficulté. Le pays décide de revenir à la culture conventionnelle du coton et de soutenir une filière bio démarrée en 2004 avec le projet Helvetas. Et en 2019, l'État burkinabé gagne même le procès intenté à Monsanto.
C'est pas du vent sur RFI.
Aujourd'hui, en termes de récolte de coton sur la campagne 2021-2022, le Burkina Faso occupe la troisième place sur le continent, derrière le Bénin, deuxième, et le Mali, leader. Où en est la filière de coton bio burkinabé? On écoutera tout à l'heure le reportage réalisé dans la région de Zorgo par Samuel Turpin et Eric Ouedraogo. Un reportage que je vous demanderai de commenter. Bruno Bachelier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondant de la filière coton au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Et je vous remercie d'être avec nous en duplex des studios de France Bleu Hérault à Montpellier. Quelques questions d'abord, Bruno Bachelier. Après la page Monsanto, pourquoi le Burkina Faso n'a-t-il pas réussi à retrouver sa place de leader dans la production de coton en Afrique ?
Alors, plusieurs raisons sans doute à cela. C'est toujours très difficile de retrouver une place de premier, une place de leader quand on l'a perdue, parce que la nature ayant horreur du vide, évidemment, ben, les autres pays ont pris la place du Burkina. Et puis, évidemment, tout un système de culture basé sur le transgénique, ça ne se change pas du jour au lendemain. Donc c'est vrai que tout cela prend du temps.
Est-ce que les raisons sont aussi à chercher du côté de l'insécurité, des attaques terroristes, notamment dans le Gourma, à l'est du pays ?
Alors ça peut faire partie effectivement des explications. Alors l'est du pays n'est qu'une petite partie de la zone cotonnière, hein, qui est quand même très étendue sur la majorité du pays. Mais ça peut rentrer évidemment en ligne de compte dans cette problématique.
Le coton burkinabé est moins concurrentiel aujourd'hui à cause de sa qualité ou de son prix ?
Alors, il a essayé de retrouver la qualité d'antan, hein, donc qui avait été effectivement perdue au moment du passage à une culture transgénique. Après, d'autres éléments entrent en ligne de compte au niveau du marché mondial, marché international, et puis tous les coûts de production afférents donc à cette production de fibres de coton distribuées sur le marché international. Et évidemment, les pays africains sont finalement globalement des petits producteurs à l'échelle du monde, et ils influent très très peu sur les prix du marché international. Donc ils sont évidemment tributaires de ce prix et ils n'ont pas d'influence dessus. Donc évidemment, lorsque les prix sont à la baisse, bah, évidemment, ces pays en souffrent directement.
Est-ce que l'épisode Monsanto a laissé beaucoup de séquelles au Burkina Faso ?
Alors, il a laissé surtout une profonde division, me semble-t-il, entre les producteurs d'un côté et les sociétés cotonnières. Parce que le bilan, finalement, de cet épisode transgénique, ça a été que les producteurs s'en sont plutôt bien sortis, surtout les producteurs relativement bien équipés en culture attelée. Eux ont trouvé finalement un bilan positif à cette expérimentation et à cette utilisation de transgéniques. Par contre, les sociétés cotonnières y ont perdu beaucoup de plumes en termes financiers, en termes d'image sur le marché international. Et ça a créé probablement une profonde scission entre les deux types d'organisations.
Et selon vous, pourquoi 3 ans après le procès gagné contre la firme américaine Monsanto, le débat continue-t-il de faire rage au Burkina entre pro et anti-BT, le fameux gène de Monsanto? Quels sont les arguments des uns et des autres ?
Alors, les producteurs, d'un côté, eux, y ont trouvé un intérêt en termes de réduction des pesticides à épandre, hein, puisque le principal intérêt de ce coton transgénique, c'est de conférer à la plante, au cotonnier, une résistance naturelle à certains ravageurs, donc ce qui permettait de réduire la quantité et le nombre de traitements insecticides à épandre, alors évidemment avec des conséquences aussi sur la santé des producteurs et de leurs familles. Alors, il faut quand même mettre dans la balance d'autres éléments. Le fait que, par exemple, les attendus pour les producteurs en termes de gains de rendement qui étaient affichés au départ de 30%, finalement, se sont révélés être beaucoup plus bas que ça, autour de 15% en réalité. Et d'un autre côté, les sociétés cotonnières, qui au début de l'introduction du transgénique ont bénéficié de prix sur le marché international relativement élevés, n'ont pas constaté de pertes. Mais par contre, au fil des années, il y a eu une dégradation du bilan financier de ces sociétés cotonnières qui, ne pouvant pas produire une fibre de la même qualité que celle qui était produite avant l'introduction du transgénique, ont perdu beaucoup sur le prix de vente de leurs produits sur le marché international et ont perdu également en termes d'image. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à chiffrer et surtout beaucoup plus difficile à restaurer dans le temps.
Et selon vous, est-ce que la toute-puissance de l'Union nationale des producteurs du Burkina est un problème ?
Alors non, c'est pas un problème en soi. Il est important d'avoir face aux sociétés cotonnières, il y a au Burkina Faso 3 sociétés cotonnières, il est important d'avoir un contre-pouvoir ou en tout cas une association de producteurs qui sache défendre les intérêts des producteurs.
On parle aussi du pouvoir excessif des sociétés cotonnières qui resteraient connectées aux anciens réseaux français hérités de la période coloniale. Vrai ou faux ?
Alors, à nuancer, si on prend le cas du Burkina Faso, évidemment, l'ancienne société cotonnière nationale est toujours en place, mais il y a eu une ouverture à des sociétés privées. Donc, finalement, il y a eu toute une redistribution hein, au moment où la Banque mondiale a demandé à ce qu'il y ait une ouverture, justement, de ces sociétés cotonnières, du marché cotonnier national à d'autres sociétés. Donc, il y a eu, effectivement, toujours à côté de la société nationale, des sociétés privées qui se sont installées et qui ont permis un petit peu de répartir la zone cotonnière entre ces trois sociétés. Alors, répartir d'une façon tout de même très géographiquement marquée, hein, puisque chaque zone société cotonnière à une zone qui lui est attribuée et donc les producteurs de cette zone sont forcément reliés à cette société cotonnière. Donc il existe toujours ce système où chaque producteur finalement est dépendant d'une société cotonnière, même si encore une fois le ratio entre public et privé a un petit peu évolué.
Est-ce que le Mali et le Bénin qui ont supplanté le Burkina ont recours aux OGM, pratiquent la culture conventionnelle ou ont opté pour le coton bio ?
Alors, Mali et Bénin restent en culture conventionnelle. Il existe un petit peu de culture bio au Bénin, mais également au Mali. Ça reste quand même, tout comme au Burkina, des quantités qui sont relativement faibles, hein, puisqu'on estime aujourd'hui que ce soit au Bénin ou au Burkina, par exemple, c'est à peu près 0,4% de la production nationale de ces différents pays qui est une production bio. Donc c'est relativement modeste, même si ça représente un marché en développement.
Bruno Bachelier, je vous propose d'écouter Neptune Terminus, extrait du nouvel album éponyme de Youssoupha. On se retrouve juste après pour suivre le reportage justement de Samuel Turpin sur la filière du coton bio au Burkina Faso.
La vie est courte, parfois on se gourre, obligé à courir. Si t'es pas occupé à naître, t'es occupé à mourir. Vos solutions m'ont pas aidé, j'ai appris de mes problèmes. J'ai jamais eu peur des menaces, j'ai toujours peur des promesses. Nous on attend les gros gamos parce qu'on a tellement marché. La vie m'a mis sous l'eau, j'en profite pour apprendre à nager. Visez l'horizon et même si quelques vagues nous ramènent, ne craignez pas la perfection, vous ne l'atteindrez jamais. Neptune Terminus. De nous quand on parle de se connaître et de se lever, c'est les gens bien, pas les gens intelligents qui vont nous sauver. Y'a rien de grave à voir des rages, ça m'a jamais piqué. Tu sais ce qu'on dit, on préfère encore faire envie que pitié. Les petits se demandent
demande ce qu'on ressent vraiment au premier million. Je m'en souviens plus, je suis déjà focus sur le deuxième million. Je peux pas faire confiance à ceux qui m'ont tué pour de la monnaie, qui ont volé notre or et le ballon d'or de Sadio Mané. J'écoute la discographie de Fela Kuti en mode shuffle. C'est pas seulement pour la musique, on pleure et nip, c'est hustle. C'est pour la culture, on bosse dur, je te jure qu'on est partout. Si ça se trouve, les Daft Punk, c'est Maître Gims, c'est Dadju. Je suis mort de soif dans le désert, je crève avec my people. Au lieu de creuser un bidot, j'ai creusé puits de pétrole. Dieu reconnaîtra les siens, ceux de ma catégorie. Traite-moi de singe, ça me va bien, je suis le plus grand des gorilles. Neptune Terminus. Yeah. Neptune Terminus. Ah. Neptune Terminus. Yeah. Neptune Terminus. Ah. Neptune Terminus. Yeah. Neptune Terminus.
Neptune, Terminus, Youssoupha sur RFI dans C'est pas du vent. Nous sommes toujours en compagnie de Bruno Bachelier, correspondant de la filière coton au CIRAD à Montpellier. La culture du coton biologique au Burkina Faso ne représente que 0,3% de la production totale du pays. Pourquoi la culture bio est-elle moins rentable, plus risquée, demande-t-elle davantage de travail? On part tout de suite pour le Burkina Faso.
On prend une autre ligne?
Ça fait 30 ans que je cultive le coton. Avant, je faisais le coton conventionnel, mais ça m'obligeait à utiliser beaucoup d'intrants et d'engrais chimiques. Ça me coûtait très cher et ce n'était pas rentable. Cela avait aussi des effets néfastes sur ma santé, celle de ma famille, et même le bétail. Depuis que je cultive le coton bio, je n'ai plus ces problèmes et j'en retire vraiment des bénéfices.
Nous sommes dans les champs de coton situés dans la région de Zorgo, à l'est du Burkina. Nous suivrons ensuite nos reporters à Koudougou, fief de François Ier, le styliste franco-burkinabé, y a implanté une usine de textile et il fait le pari, malgré la concurrence de la friperie et des textiles chinois, du développement d'une filière textile 100% bio, made in Burkina et équitable. C'est un reportage de Samuel Turpin et Eric Ouedraogo.
Avec la culture conventionnelle, il faut prévoir beaucoup de traitements phytosanitaires pour tuer les mauvaises herbes et les insectes. Maintenant, j'utilise juste des graines de nimier que je mélange avec de l'eau et du piment. C'est très efficace contre les insectes. Et il n'y a aucun impact sur la santé humaine et animale. Avec ça, je peux traiter mon champ 5 fois dans l'année. Ça dépend de la pluviométrie. Moins il pleut, moins tu traites. Moins il pleut, moins tu traites ton champ, car il y a peu d'insectes.
Ça, c'est des arbres en plus qui sont très 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 résistants en fait à la chaleur.
Hein. Ça, c'est la capsule. Voilà, voici le coton là maintenant. Tu attrapes le coton et puis tu tires et tu laisses le capsule.
Si, hein, comme ça.
Non, si tu prends comme ça, il y aura des laisses. Il faut que tu attrapes tout.
Il faut que je tourne la main.
Voilà, tu tournes et tu tires. Ah. C'est la capsule qui peut blesser. Ça va. Qui est pointu là.
En fait, la capsule, hein, ça vient protéger la boule de coton. Et puis quand elle est prête à éclore, en fait, c'est comme une fleur. Hein. Elle s'ouvre comme ça.
Si ce n'est pas toute ouverte, ce n'est pas bien mûr, quoi. Non, il y a l'eau dans la capsule.
La boule de coton est gorgée d'humidité, d'eau, en fait.
Oui. Comme avec le soleil, les capsules vont devenir secs. Si tu enlèves maintenant, c'est plus facile.
En une journée, combien une personne peut recueillir comme ça?
Par journée, une seule personne peut enlever 50 kilos.
Bon, moi, si j'arrive à enlever 2 kilos, hein, ça va suffire. Hein.
Mais toi, tu es là pour travailler. Tu dois rester avec nous sous le soleil.
Tant que j'ai pas fait les 50 kilos, je reste alors. Et ensuite, la capsule, qu'est-ce qu'on en fait?
Si les tiges sont bonnes, pas trop sèches, mais encore souples, les gens ramassent ou achètent ça pour du bois de chauffe ou pour le fourrage.
À quel moment, en fait, on décide de récolter ?
Le coton de meilleure qualité, ce sont les capsules les plus basses sur la tige, car elles contiennent plus d'eau et d'humidité. Cela conserve bien la fibre. Et en plus, le coton est bien lourd, car il est humide. Mais il faut cueillir dès que la capsule s'ouvre. Ensuite, on attendra que les prochaines capsules s'ouvrent pour les cueillir. C'est mieux de faire la récolte par étapes pour que le coton ne sèche pas et que la poussière ne vienne pas le salir.
Et on a renversé le sac. Il faut vraiment de la dextérité. Hein.
Ici, le sac est plein maintenant.
Alors, j'ai laissé tomber la capsule là. Donc ça, je peux pas mettre dans le sac en fait.
Non. Il faut que tu enlèves les déchets là d'abord avant de mettre. Alors,
faut que tu... Faut que j'enlève le sable, ouais. J'enlève les petites herbes là.
Oui.
Voilà. Faire le coton bio, est-ce que ça demande plus de travail ?
Comme on n'utilise pas de produits chimiques, la difficulté avec le bio, c'est qu'il faut de la main-d'œuvre pour désherber.
Yokuba, quand tu as commencé le bio, tu t'es fait accompagner, tu t'es formé à des nouvelles techniques ?
On nous a appris comment labourer, comment récolter, et qu'il faut garder une bonne distanciation entre les champs pour éviter que les produits chimiques utilisés dans le coton conventionnel ne contaminent le coton bio.
Une des personnes qui t'a encadré, hein, il est à côté de nous, c'est Aimé.
Oui.
Aimé Nyamwego, tu encadres ici les producteurs de coton bio.
Je suis employé à l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina.
Combien d'agriculteurs de coton bio il y a par ici ?
On tourne à 313 producteurs de coton bio dans la zone, avec une superficie de 103 hectares.
Ici, il y a du coton conventionnel et il y a du coton bio. Comment on fait pour qu'un champ bio ne soit pas contaminé par les intrants qu'on utilise dans le conventionnel ?
Ok. Le coton bio ne doit pas être proche d'un champ conventionnel. C'est 50 mètres entre les deux cotons. Il faut qu'il y ait des cultures en hauteur, par exemple le sorgho comme ça.
Qui sépare les deux ?
Qui sépare les deux. Et il y a aussi une bande de séparation.
Comment ça se contamine ?
D'abord, c'est les insectes qui peuvent transporter les gènes du coton conventionnel pour venir dans le coton bio. Et le vent aussi. Et le ruissellement aussi. Ça aussi, ça a évité. Maintenant, c'est nous qui donnons les intrants aux producteurs. On ne paie pas sur le marché. Et si ça te manque, tu n'as pas le droit d'aller emprunter sur ton voisin le coton conventionnel pour s'aimer après le récolte. Il faut chercher un coin bien propre, là où le coton ne peut pas être sué, et on sort le coton. Dans le jour J maintenant, la cadre vient maintenant voir la qualité du coton.
Il va falloir aussi éviter la contamination pendant le transport.
Bon, l'UNPCB choisit un transporteur qui va ramasser tout le coton de toutes les zones. Et maintenant, il y a un cas de charge pour le transporteur. Le véhicule doit être lavé à la station. Et le camion doit avoir des bâches pour bien couvrir le coton jusqu'à destination, jusqu'à l'usine. Voilà. Chaque année, on a un certificateur qui vient certifier le coton au niveau du champ d'abord. Pendant les grainages, il part certifier l'usine avant que les grains ne commencent. Puisqu'on doit nettoyer l'usine d'abord avant que le bio ne soit égrené.
Jusqu'en 2019, l'usine qu'on allait utiliser pour faire les grainages, donc enlever les petites graines, hein, quand on malaxe la boule de coton, on sent ces petites graines, c'était la même que pour le coton traditionnel. Donc là, on risquait en fait de contaminer le coton.
Oui, ça c'est vrai.
Là, depuis 2020, ça a changé en fait.
Ça a changé maintenant.
C'est qu'il y a une usine d'égrenage.
Oui, l'usine c'est Côte Bio à Koudougou.
On charge ça. On va te suivre à Kudugu et nous, on va rencontrer François 1er. Tu connais François 1er?
Oui, je l'ai vu une fois à Kudugu lors de l'ouverture de l'usine. À ce moment, il y avait 6 côtes de défilé de monte.
Voilà. Allez, on y va.
Yeah, we money. Hey, I bring money. I don't biga. Did we mia auto?
Yeah.
Han ya rando akato sandam do akato zabur de beka. Hangaze garayan pueze. Ma ya bring man te vi ma yo. Oui.
Mon histoire est que François 1er, c'est un garçon qui est allé en France et qui a étudié dans le monde de la mode, qui a vécu dans le chantier. J'ai occupé des postes de responsabilité en tant que responsable de production modéliste. Et j'ai décidé de venir en Afrique pour créer ce qu'on appelle une société développement. Et au départ, les gens ne me croyaient pas. Les gens pensaient que le gars il allait retourner vite fait dans son pari parce que ça ne marchera pas. Aujourd'hui, je suis devenu l'icône jusqu'à j'ai eu deux décorations.
C'est vous, ça?
Oui, c'est moi avec ma médaille de l'ordre de l'étalon.
C'est ton fils, ça, c'est pas toi. Non, tu es trop
moi,
jeune,
non,
là.
Non, c'est moi, là, c'est moi. C'est le maquillage.
Ah, et on entend déjà les machines. Hein.
Ouais.
Il y a combien d'ateliers de tissage en tout?
Ici, j'ai à peu près une vingtaine de machines à tisser. Rien que sur les machines à tisser, j'ai une cinquantaine de personnes.
Tout est manuel.
Et les métiers sont burkinabés. Le bois est fait ici. Le métier à tisser est fait ici. Le monsieur qui est assis, il est formé ici.
Ça, c'est vraiment la volonté de ton projet. En fait, c'est de créer tout un écosystème cohérent.
Un écosystème où c'est les valeurs de l'homme. L'homme est sans la machine et pour donner des produits créatifs.
Tu reçois du fil d'où?
L'usine de Abobo Dilasso, ça s'appelle Filature du Sahel, ça file ça.
C'est
la seule usine au Burkina Faso qui fait le fil, mais qui a une capacité quand même énorme qui peut fournir pour la transformation locale et qui exporte son fil. Et maintenant, quand le fil, je reçois le fil, donc ça vient dans des balles de 50 kilos. Je consomme chaque année 10 tonnes.
Quand le fil y vient, sa couleur, elle est crue.
Elle est crue. Il faut le mettre dans la marmite et de bouillir, enlever l'impureté du fil. J'ai choisi les couleurs et maintenant, elles vont faire la teinture. Il faut que mes colorants soient homologués, sans plomb, à base des plantes bio et locales.
On n'utilise pas de bois, là, pour les marmites.
Non. Chez moi, on n'utilise pas de bois, on utilise du gaz. Et là, actuellement, je suis en train de me battre pour qu'on puisse bientôt faire de l'énergie solaire. Moi, je n'utilise pas de bois. Et non seulement contre la déforestation, ça ne donne pas des conditions de travail aux femmes avec la chaleur, le bois, ça les rend malades. Là, elle est en train de blanchir, elle ne va pas utiliser du javel. Elle est prise de l'eau oxygénée. Malgré qu'il n'y a pas de fer, malgré qu'il n'y a pas de plomb dans les colorants, mais l'eau ne doit pas rentrer dans la nappe phréatique. L'eau est conduite dans ce puits, on a mis un système à l'intérieur où ça filtre l'eau pour arroser les plantes.
Si je te présente deux boules de coton, une boule de coton bio et une boule de coton OGM, tu sens la différence, toi, pour le travailler sur tes machines?
Je sens la différence parce que boule de coton bio, quand je vais l'attraper, elle est douce dans ma main. Si vous touchez mon tissu, vous allez voir, elle est douce. Mais si vous prenez le tissu qui est tissé par le coton conventionnel, elle est plus riche. Mais si vous prenez le tissu qui est tissé par le coton BT, vous allez voir que ça ressemble à du synthétique. Le coton bio, la fibre est plus épaisse et plus longue. Et ça donne une certaine rentabilité. Mais l'autre coton est plus court. Le coton BT, c'est court. Ça n'a pas les mêmes rendements. Et puis, il n'y a pas que ça. Mais il faut regarder aussi l'environnement. Donc, je ne comprends pas pourquoi on laisserait ce coton pour l'autre. Le coton bio, est sur le marché, il est plus cher que le coton OGM.
Donc, tu gagnes mieux.
Tu gagnes mieux. Et ta santé. Même si tu gagnes peu, mais si tu es en bonne santé, je pense que c'est le meilleur. Que de gagner beaucoup et mourir vite. Mais je pense que quand vous demandez 10 Burkinabés, il y a sur un même, ils ne savent même pas ce que c'est que le coton bio. le coton OGM, le coton bio, le coton conventionnel. Les gens ne connaissent pas. On pense que tout ce qui est bio, c'est fait pour les blancs. Alors que non, on ne sait pas que le coton bio, ça préserve la santé.
Prochaine étape.
Prochaine étape.
Attention, on passe sous les fils là.
Oh, ouais. Après, on doit faire ce qu'on appelle des bobines.
On traverse les ateliers.
Voilà. Elle est en train d'enrouler et c'est un système artisanal.
Bonjour.
Et puis maintenant, les bobines sont placées dans ce qu'on appelle un cancre.
Alors là, on a des bobines de fil hein, devant nous qui font environ 8 à 10 cm de diamètre.
De diamètre, voilà.
Et là-dessus, il y a une longueur de...
Il y a une longueur de 1500 mètres.
Par bobine.
Par bobine. Il y a 160 bobines au total. Et à partir de là, maintenant, on va tirer, mettre ce qu'on appelle un ensouple. L'ensouple est là.
Ça a été quelle plante qui nous donne cette magnifique couleur orange?
À la base, c'est la plante qu'on appelle le siga. C'est antiseptique aussi, ça soigne. Après, le fil, on le fixe maintenant au métier à tisser.
On est en train de préparer
le métier à tisser
pour pouvoir tisser.
Ils sont en train de faire ce qu'on appelle un piquage.
Et puis que ça, c'est un travail très minutieux.
Très minutieux, il faut au moins 3 personnes. Elle donne, l'autre attrape, il fait passer dans les petits trous là.
Chaque fil, on le passe dans une série de peignes,
voilà.
Comme dans le chat d'une aiguille en
c'est
fait.
C'est ça, ouais. Mais à moindre erreur, ça donne un mauvais tissu. Et quand ça se croise, ça fait un trou. Et c'est ça même dans les usines. Donc quand vous regardez dans les grosses industries en France, il y a des tissus premier choix, deuxième choix. Tout simplement, c'est ces erreurs-là qui font qu'on coupe ces bouts-là. Et on dit ce tissu est premier choix, deuxième choix.
On va passer combien de peignes là à peu près?
Par 4, ça fait 600.
Alors pour tisser une bande d'une largeur de
1,20 m.
Et cette largeur, c'est pas innocent. Hein.
J'ai fait de la toile pour les vêtements, pour les chemises, pour les robes. Donc il faut que j'ai une largeur de 1,20 m à 1,50 m pour pouvoir ne pas avoir des raccords, pour avoir de la qualité. Moi, mon tissu fait un gramme de 180 grammes au mètre carré.
Combien de temps on met pour préparer un métier à tisser là?
4, ils mettent une journée. Vous savez, j'ai à peu près 70 personnes qui font à peu près 1 400 mètres par mois. Je peux avoir des machines automatiques qui peuvent faire 1 400 mètres par jour, mais on n'embauche personne. Ce n'est pas le développement. Et l'objectif de mon projet est de créer des emplois décents, de créer des emplois créatifs, de créer des emplois où les gens sont bien et je leur fais comprendre que l'entreprise, c'est la leur. J'ai ramené un savoir-faire de la France. Et ce savoir-faire, je ne vais pas mourir avec. Il faut que je donne aux autres.
Pendant des décennies, le pays a été le premier producteur africain de coton. Et pourtant, les tissus qu'on trouve sur le marché, ils viennent de Chine. C'est quand même un gros paradoxe.
Oui, ils viennent de Chine parce que c'est comme une question de volonté politique économique mondiale. Où on a favorisé plutôt l'économie d'échange que l'économie de la production, que la créativité. Ce qui fait qu'on a une usine de filature, on a une usine de grainage, mais on n'a pas d'usine de textile. Et puis l'artisanat que nous avons hérité de Thomas Sankara, on n'a pas fait une politique pour consolider ça, pour l'amener à l'industrialisation.
Alors il y a eu un véritable virage à la fin des années 90. Oui. La filière coton burkinabé a subi un mauvais coup. En 96, les chenilles légionnaires. Et en 98, c'était la mouche blanche.
La mouche blanche. Pour pallier à tout ça, ils ont pensé que en faisant appel au coton OGM, ça pouvait régler certaines choses. Ils ont pensé qu'on allait révolutionner l'agriculture, qu'on allait permettre d'avoir assez de la nourriture. Donc tout ça, c'était les arguments, au fait, pour pouvoir vendre l'OGM. Après, ça a eu un problème politique aussi. Il fallait aussi tendre la main à l'Amérique. Ils distribuaient l'argent aux paysans, ils voulaient que tous les paysans travaillent dans le coton OGM. Donc ils ont tout fait pour pouvoir convaincre et séduire les gens. Mais ils se sont rendus compte que c'était plus catastrophique parce que le rendement n'y était pas, la qualité n'y était pas, et puis aussi les conditions du travail n'y étaient pas. Les cotonculteurs s'endettaient beaucoup, et puis il y a un problème de santé, et puis les vaches mouraient quand ils mangeaient avec les pesticides. Donc le Burkina était obligé de faire un retour au coton traditionnel. Et puis le coton bio. Il y a eu un procès même d'ailleurs, en 2016, où le Burkina Faso a gagné le procès parce que le Burkina Faso a montré que c'est le rendement que Monsanto, dans son cahier des charges, et n'y était pas.
Mais à partir de 2016, en fait, la production a littéralement chuté. Aujourd'hui, c'est difficile de reprendre les capacités de production. Et le débat est encore vif entre les anti-OGM et les pro-OGM.
Oui, parce que vous savez, les firmes, ce qui les intéresse, c'est la productivité et le profit. Quand vous parlez de 2016, 2017, on a eu un problème climatique.
On a eu des fortes sécheresses. Hein.
On a des fortes sécheresses. Quand on ne donne pas les bons engrais qui peuvent aller avec le temps, c'est-à-dire quand c'est la sécheresse ou bien adapté au temps, ça ne peut pas donner un bon rendement. Donc on a eu d'autres paysans dans les années 2018 qui ont juré même qu'ils ne vont plus faire le coton.
200 000 hectares n'étaient pas emblavés en 2018.
Voilà. Donc il y a eu moins de paysans qui se sont engagés dans le coton, donc ça a donné un rendement faible, qui fait que le Burkina se retrouve aujourd'hui 3e ou 4e, je ne sais pas. Aujourd'hui, on est en train de travailler en sorte que ces paysans reviennent. Et aussi, la situation sécuritaire a fait que ça a baissé la productivité du coton. Mais tout ce que je sais, que le prix du fil, le prix du coton a augmenté actuellement. Et il manque de coton dans le monde. Le coton est devenu de l'or, c'est cher actuellement.
L'or blanc.
L'or blanc. Et moi, je suis au bout de la chaîne. Et cette chaîne, ça n'existe pas aussi. Le coton peut pas être transformé.
On va aller regarder tes motifs là-bas. Il y a un de tes tissus qui a particulièrement du succès.
Oui, oui, oui. Oui. Vous voyez ce produit-là? On a fait un tissage écarté.
C'est une cotonnade, hein, en fait.
Trois jours.
Une bande d'un centimètre très serrée, voilà. Alternée avec une bande beaucoup plus aérée, voilà. Ce qui laisse aussi passer l'air.
Hein. Ce qui laisse passer l'air. Et ce produit-là, léger, très léger, très fin et qui plaît beaucoup, ce produit répond au marché. Tous ceux qui sont musulmans, qui font les boubous, ils auront besoin de cette matière. Donc, dans une industrie créative, il y a ce qu'on appelle du basique. Le basique se vend tout le temps. On appelle des produits phares, des produits d'appel. Et il y a ce qu'on appelle les produits créatifs. Mais 70% du chiffre d'affaires, c'est tout ce qui est basique. C'est la simplicité qui fait le chiffre d'affaires. Une fois que le tissu sort de la machine à tisser, je laisse reposer le tissu.
On voit des femmes là, hein, qui sont en train de...
Oui, étaler le tissu. Là, actuellement, ils ont fait à peu près 200 mètres. Là.
Et là, on fait sécher sur les fils.
Voilà, on fait sécher sur le fil. Il faut sécher un peu à l'ombre parce que les rayons du soleil abîment le tissu. Ici, j'ai la machine à laver. Je mets le tissu dedans. Et ça donne le taux de rétrécissement. Il faut que je l'étale, qu'il sèche. Après, j'ai la presse qu'il faut les redresser, les repasser et puis maintenant aller à la coupe.
C'est la création.
C'est la création. Ici, j'ai une table qui fait à peu près 6 mètres de long. Et dans cette table-là, je crée le modèle.
Tout autour, accroché sur les murs, il y a les trésors de François Ier.
C'est le trésor, c'est-à-dire c'est un patrimoine. J'ai vécu 35 ans en France dans l'industrie. J'ai des patronages des vestes. J'ai des patronages, même des manteaux. À partir d'ici, je peux faire des manteaux. Vous voyez
là,
ça? Ça, c'est un manteau. Je peux tout faire, tout, de ce qui concerne l'Europe. J'ai la coupe Yves Saint-Laurent. J'ai la coupe Pierre Cardin. Là, j'ai des vestes. Ça, c'est un manteau croisé. Je travaille maintenant, si c'est pour l'Europe, en fonction de la clientèle. Si c'est pour la haute couture, je sais quelle taille il faut faire. Si c'est pour le prêt-à-porter, je sais quelle taille il faut faire.
Ce n'est pas le même public cible.
Ce n'est pas le même public, ce n'est pas le même prix, ce n'est pas le même travail et ce n'est pas la même matière.
Est-ce que c'est compliqué de t'approvisionner en coton bio?
Au départ, j'ai souffert beaucoup. Beaucoup ne croyaient pas. C'est de la qualité et les gens trouvaient que c'était cher. J'ai fait mon premier défilé éthique coton bio au Carrousel du Louvre en 2011. Il y avait tous les grands créateurs et j'ai eu des commandes avec des boutiques éthiques. Et à ma grande surprise, je reviens ici, il n'y avait pas de fil bio. Pourquoi? Parce que Monsanto savait mener sa politique où tous les cotons bio étaient vendus à Victoria's Secret aux États-Unis. J'étais obligé de m'approvisionner au Mali par les artisans. Je passais par le système D parce que j'avais la conviction que c'est dans le coton bio que j'allais évoluer. Pendant ce temps, tous ces engagements, je n'ai pas pu tenir et aujourd'hui, je ne peux même plus approcher les gens. On a commencé à voir le coton bio qu'en 2018.
Il y a eu deux projets d'initiative.
Il y a eu deux projets de mise en place du coton bio. Il y a eu Helvetas en 2004. Après, il y a eu CRS.
De 2013 à 2018, hein, c'est le projet récolte.
Le projet récolte.
S'il n'y avait pas eu ces interventions extérieures, tu penses qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de production de coton bio au Burkina?
Oui, je pense que oui, parce que c'est eux qui ont amené l'État à faire. L'État aime participer à l'investissement des grainages du coton bio.
Avec cette usine hein,
Choco bio.
Qui a été inaugurée en 2020, ici même à Koudougou.
Voilà. Et l'État est partenaire, mais parce qu'au départ, c'est ces ONG-là qui ont lancé la machine. Mais ça ne suffit pas. Si aujourd'hui on veut vraiment développer le coton bio, on a des agriculteurs qui savent faire leur travail, qui sont bien. Les structures sont là, les compétences sont là. C'est de mettre les moyens dans la distribution, mettre les moyens dans l'ouverture du marché. Les acteurs sont là. On n'a pas besoin de grosses usines. On a besoin de transformation locale, de petites et moyennes entreprises. J'étais invité à la Journée mondiale du coton à Genève en 2020. J'ai participé à l'élaboration des projets de l'Union européenne, de l'OMC, de l'UMOA. Et ils sont tous unanimes que le développement de l'Afrique va passer par le textile, par la transformation locale. Mais je ne comprends pas. Si ce textile va être le moteur économique qui met de l'argent et qu'il laisse cette friperie qui vienne...
Ce qu'on appelle la friperie ici, c'est quoi?
On appelle ça Yuyu. France, au revoir.
C'est la seconde main.
La seconde main. Mais le problème est que cette seconde main aussi, elle n'est pas contrôlée. Parce que quand vous regardez ce qui arrive, c'est ramassé, c'est versé. Est-ce que cette friperie est lavée, traitée avant de venir en Afrique? C'est des questions aussi qu'il faut poser. Parce que ceux-là sont subventionnés là-bas. Mais si on laisse envahir le marché, si vous gavez des consommateurs déjà avec tous ces produits-là, en ce moment, vous allez mettre des milliards. Nous, on va s'organiser, on va faire l'industrie. Mais on vend à qui? C'est la question que je me pose.
État des lieux de la filière du coton bio au Burkina Faso. Un reportage de Samuel Turpin et Eric Ouedraogo. La musique originale est signée Zabda Ablassé. Bruno Bachelier, je rappelle que vous êtes le correspondant de la filière coton au CIRAD à Montpellier. Votre première réaction à ce reportage?
Eh bien, c'est effectivement très intéressant de voir comment cette chaîne bio, finalement, s'est développée localement, hein, depuis le producteur jusqu'à la transformation avec les ateliers de François Ier et ce qu'il propose donc sur une chaîne qui est finalement donc 100% bio, qui est valorisée avec ce label-là. Le problème aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt l'approvisionnement en coton bio qui se pose et peut-être le marché, le débouché qui va pouvoir en être tiré localement ou au niveau international.
Mais cette culture du coton bio au Burkina, elle ne représente, donc on l'a dit, hein, que 0,3% de la production totale du pays. Est-ce qu'on peut parler d'échec ?
Échec non, puisque cette filière finalement s'est mise en place. Une usine, ça a été rappelé dans le reportage spécifique, une usine d'égrenage. Donc l'égrenage, je le rappelle, c'est l'étape qui permet de séparer la graine d'un côté de la fibre. Juste pour mémoire, la graine donc part dans une filière huilerie, hein, puisqu'on crée de l'huile de table avec l'huile de coton. Et puis avec le reste de la graine, on peut alimenter le bétail avec du tourteau. Et pour la partie fibre, donc cette valorisation est un importante à travers cette usine donc de Koudougou pour avoir garantir que le coton bio au champ reste du coton bio au niveau des balles de coton. Le plus grand risque, ce serait de mélanger ce coton bio avec un coton conventionnel. Et évidemment, on perdrait totalement la crédibilité de cette filière bio. Donc là, le Burkina a su mettre en place cette filière. Donc ça, c'est un point très positif. La difficulté après, évidemment, c'est de pouvoir assurer une production relativement importante au champ. Encore une fois, les chiffres sont aujourd'hui faibles, mais ils ont le mérite d'exister. L'encadrement des producteurs, la mise à disposition d'intrants adaptés à la culture bio, hein, puisque faire du coton bio, ça ne veut pas dire faire du coton sans intrants. Il faut bien sûr des engrais, à ce moment-là des engrais organiques et non pas des engrais minéraux chimiques de synthèse. Donc il faut utiliser du fumier, par exemple. Et pour le traitement des bioagresseurs, donc des insectes essentiellement, utiliser des produits qui sont reconnus et acceptés dans une filière bio. Alors on avait un producteur qui nous parlait d'utilisation de piment, effectivement ça peut être une solution. Alors ça reste quand même une solution à petite échelle. Dès lors qu'on veut augmenter les surfaces, il faudra passer sur ce qu'on appelle donc des biopesticides, mais des biopesticides qui sont produits par des entreprises spécialisées. Donc ça demandera le développement de toute une filière bio vraiment bien organisée.
Une petite phrase m'a frappée dans ce reportage de Samuel Turpin. On entend Yukuba, le cultivateur de coton bio, dire « Beaucoup pensent que le coton bio, c'est pour les Blancs. S'il n'y a pas plus d'adhésion au bio, c'est aussi parce qu'une partie de la population pense que cultiver bio est une injonction venue de l'extérieur, de l'étranger ?»
C'est possible qu'il y ait cette idée derrière, effectivement. Il faut voir aussi que le coton bio et aujourd'hui donc toute la filière de production textile bio, c'est une filière avec une relativement forte valeur ajoutée, hein, ce qui veut dire que les produits qui en sont issus sont des produits qui ne sont pas des produits d'appel, hein, comme le disait François Ier, mais des produits de créateurs finalement, avec finalement un coût qui n'est pas forcément adapté au pouvoir d'achat des populations locales. Donc évidemment, c'est souvent perçu comme une production un peu élitiste, destinée à l'exportation pour les pays les plus développés et qui ont les moyens de payer un produit, un vêtement avec un prix supérieur à un produit courant. Et effectivement, la concurrence avec la fripe, par exemple, qui était la fripe, donc les produits de seconde main, qui sont souvent importés d'Europe, renforce probablement cette image en disant voilà, l'Europe nous envoie des produits qui ont déjà été utilisés, moins chers, et on leur exporte finalement des produits haut de gamme et à forte valeur ajoutée. Donc je pense que ça contribue effectivement dans l'esprit collectif à avoir cette image très différenciée de deux types de production pour deux marchés vraiment distincts.
Est-ce qu'il faudrait des politiques plus volontaristes? Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, hein, que l'État burkinabé passe commande à François Ier d'uniformes scolaires ou de blouses médicales en coton bio?
Effectivement, ce serait une bonne option. C'est quelque chose qu'on a vu se développer en Europe et qui marche relativement bien. Le facteur limitant aujourd'hui, c'est vrai, c'est plutôt l'outil de transformation sur place, hein, local. L'exemple de François Ier est un exemple assez unique. Le potentiel de transformation locale de la production de fibres de coton est relativement réduit. Alors c'est le cas au Burkina, mais c'est le cas de façon beaucoup plus globale en Afrique de l'Ouest et du Centre, où l'essentiel, je crois que c'est de l'ordre de 90% de la production de fibres de coton de cette zone, est exportée vers l'étranger pour être transformée en fil, en tissu, en étoffe de façon générale. Or, on sait que la valeur ajoutée sur un produit, elle est dans ses étapes de transformation. Elle n'est pas sur la valeur de la balle de coton, sur la fibre brute. Donc effectivement, il y a nécessairement une volonté politique pour attirer les transformateurs, pour qu'il y ait effectivement des implantations dans les pays africains d'unités de transformation. Si on compare avec l'Afrique de l'Est, par exemple, où la transformation est un peu plus développée, il y a des usines qui sont implantées maintenant, par exemple en Éthiopie. Alors, ce sont souvent des partenariats avec des pays étrangers. Bon, dans le cas de l'Éthiopie, c'est souvent en partenariat avec la Chine, par exemple. Mais il y a une transformation locale qui permet d'ajouter une plus-value relativement importante aux produits locaux, nationaux.
François Ier qui déclare « On n'a pas transformé l'artisanat hérité de Sankara en industrie ». Vous êtes d'accord? Le faso d'Anfani, l'habit traditionnel, les slogans « Produisons Burkinabé »,« Consommons Burkinabé » ont été volontairement oubliés après l'assassinat en 87 du président Thomas Sankara?
Alors, il y a sans doute eu effectivement cet effet-là qui a été marqué. Et encore une fois, la volonté politique sans doute n'a pas repris le relais de dire transformons localement ces produits, donnons-leur toute leur image, toute leur valeur à la fois symbolique et coutumière et nationale. Et ça, c'est peut-être quelque chose effectivement qui a manqué au cours des années passées, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Alors on parle aujourd'hui du coton comme de l'or blanc. Pourquoi le coton a-t-il pris autant de valeur au niveau mondial ?
Bien, alors pendant très longtemps, le coton a été la première fibre textile. Hein. Donc je remonte maintenant là à quelques 40 ans en arrière. C'était vraiment le coton qui était le produit textile roi. Il a été peu à peu grignoté puis dépassé par les fibres artificielles, les fibres synthétiques notamment, hein, donc issues notamment de la pétrochimie.
Comme le polyester.
Par exemple, le polyester, donc ça c'est vraiment un produit qui vient du pétrole, hein, donc si on veut remonter à la source. Donc l'image évidemment de produits naturels, elle n'est pas applicable à ce type de produit, surtout évidemment avec toute l'image négative qu'on a actuellement autour de l'exploitation du pétrole. Le coton qui représentait il y a une quarantaine d'années 90% des fibres textiles est aujourd'hui tombé beaucoup plus bas, à 20 ou 30%. Alors, pas parce que la production cotonnière mondiale a diminué, bien au contraire, elle a augmenté de façon quasiment constante, parce que la demande en vêtements aussi et la population humaine augmente. Mais la part des produits de synthèse, des produits donc issus de la pétrochimie, elle a augmenté beaucoup plus vite, parce que ce sont des produits qui sont à un coût moindre. Hein, la fibre synthétique coûte moins cher que la fibre de coton aujourd'hui. Mais cette image d'or blanc a toujours prévalu et reste quand même malgré tout existante aujourd'hui, d'autant plus qu'on souhaite revenir à des produits naturels. Donc la fibre de coton est une fibre végétale, c'est la première fibre naturelle aujourd'hui, hein, loin devant la laine par exemple ou la soie. Néanmoins, pour être tout à fait avoir une vision plus complète de la situation, le coton souffre quand même aussi d'une image parfois un peu négative à travers la production de coton dit conventionnel, l'utilisation donc d'engrais de synthèse, d'engrais chimiques, de produits de traitement contre les ravageurs. Alors l'Afrique par contre ne fait pas partie de la zone qui est la plus utilisatrice de ces produits chimiques, hein, beaucoup moins que d'autres zones à travers le monde. Le coton africain jouit malgré tout d'une image d'un coton qui est plutôt respectueux de l'environnement.
Et pour les pays acheteurs, est-ce que la tendance à importer du bio augmente nettement ou est-ce que cela dépend des pays et de leur zone géographique ?
Alors je dirais que ça dépend effectivement des différentes zones. Il y a aussi des effets de mode, soyons clairs. Le coton bio a fait l'objet d'une demande relativement importante il y a quelques années, donc ce qui a incité certains producteurs africains à se tourner vers le bio, mais cette tendance ne s'est pas finalement poursuivie, elle est restée relativement stagnante en termes de volume, ce qui fait que certains producteurs qui avaient investi dans du bio se sont retrouvés avec leur production bio sur les bras et beaucoup de difficulté à l'écouler. Passer d'une culture conventionnelle à une culture bio, alors c'est vrai pour le coton, mais c'est vrai pour d'autres cultures, ça demande 3 années de conversion. 3 années pendant lesquelles on n'est pas encore certifié comme une production bio, mais on n'est déjà plus dans le conventionnel. Et souvent, ce qui est associé avec le passage du conventionnel au bio, c'est une perte de rendement. Donc ça veut dire une perte de revenus le plus souvent pour les producteurs, parce que le surcoût, enfin le surprix d'achat de la production bio ne compense pas toujours la perte de rendement de passage du conventionnel au bio. Donc il faut en général une politique d'accompagnement des producteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est discuté au niveau national, évidemment, par les organisations de producteurs, avec les représentants du gouvernement ou les instances en tout cas qui fixent le prix d'achat du coton. Donc il y a vraiment encore une fois toute une chaîne, toute une filière à faire vivre et en mettant évidemment les moyens d'accompagnement, les moyens financiers nécessaires pour la faire vivre en tant que telle.
J'ai une dernière question, Bruno Bachelier. Est-ce que le coton égyptien est toujours considéré comme le meilleur coton du monde ?
Alors, le coton égyptien a la particularité d'être une espèce particulière, hein, contrairement au coton qui est cultivé dans le reste de l'Afrique, hein, donc qu'on appelle le Gossypium hirsutum, hein, c'est le nom de cette espèce. Le coton égyptien, c'est du coton dit barbanacé, parce qu'il est originaire de la Barbade à l'origine. Effectivement, c'est un coton qui est très long, très fin, qui permet de faire des fils de très bonne qualité, des fils très fins et résistants, et qui permet de s'orienter vers une production plutôt haut de gamme, hein, donc tout ce qui est dentelle, chemise de haute qualité, etc. Donc c'est vrai que ce coton dit égyptien est aujourd'hui considéré comme un des meilleurs cotons au monde. D'ailleurs, son prix d'achat est beaucoup plus élevé que le reste de la production. Alors ça ne représente que quelques 5 à 6% de la production mondiale. Et derrière le mot coton égyptien aussi, il faut bien voir qu'il n'y a pas que l'Égypte qui produit ce coton-là. Il est aussi produit, par exemple, en Californie. Il y a d'autres zones à travers le monde qui en produisent.
Merci beaucoup Bruno Bachelier d'avoir été avec nous en duplex de Montpellier grâce à nos confrères de France Bleu Héros que je remercie au passage. C'est pas du vent, touche à sa fin. Merci à François Porcheron qui l'a réalisé. Bon week-end à tous, on se retrouve jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien.